Alors, dans la catégorie « Qu'est-ce qui se passe en studio pendant la pause?
» La discussion a continué.
Oui, elle vient de se terminer.
Vigoureuse. Oui. Ben, c'est parfait, on est là pour ça.
Ça oui, absolument.
C'est un débat extrêmement intéressant. Moi, malgré que je ne sois pas sur Facebook et je ne sois pas un consommateur, ces questions-là m'intéressent et m'interpellent parce que je suis un citoyen. Puis je suis confronté aux conséquences de tous les utilisateurs de Facebook.
Bon, parlons de l'autre sujet, c'est-à-dire le fait que on voit qu'avec, disons, le changement de calcul, il y a des enfants pauvres qui perdent le repas avec lequel, en fait, sur lequel il y avait un rabais, des repas pas chers.
Ben oui.
Parce qu'il y a trop de riches comme voisins dans le quartier. Fait exact. Que là, ils viennent de perdre l'accès à ces repas.
Ce qu'ils appellent l'indice de défavorisation, ça a changé parce qu'il y a des secteurs...
On va enlever de la bouffe à des pauvres pour en donner à d'autres pauvres ailleurs.
Exactement. Puis parce que dans certains quartiers, il y a ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire qu'il y a des gens plus aisés qui achètent des logements puis qui les rénovent. Donc, le revenu médian augmente puis eux autres, ils perdent. Mais c'est passionnant, cette idée-là, parce que je regardais ce qui se passe là, c'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens que des enfants fréquentent l'école et n'aient pas mangé, n'aient pas déjeuné ou ne mangent pas de la journée. Et c'est étonnant de voir comment le fait d'alimenter des enfants, pour certains, c'est probablement la mesure du filet de sécurité sociale la plus importante. Puis quand tu mets à réfléchir à ça, et il y a des lieux où on a plus que réfléchi, où on a agi. À New York, par exemple, les enfants des écoles publiques ont à la fois le déjeuner et le repas du midi fourni dans les écoles. Au Brésil, 45 millions d'enfants sont nourris parce que on y voit des avantages incroyables. Alors moi, cette idée-là qui, au début, je me suis dit, est-ce qu'on doit nourrir vraiment tous les enfants? Bien, plus ça va, plus je me dis, c'est une sacrée bonne solution si on veut aller vers ce qu'on souhaite, c'est-à-dire une égalité des chances. Bien, l'égalité des chances, ça veut dire d'abord que les enfants qui sont assis là ont eu un repas décent. Puis il y a beaucoup d'autres avantages, j'y reviendrai tantôt.
Le premier réflexe, ça peut être de se dire, oui, mais ça va coûter combien nourrir les enfants du Québec? Ça coûte combien que tant d'enfants du Québec ne soient pas nourris? Ouais. Qu'ils arrivent à l'école et qu'ils aient le ventre vide. Après ça, tu peux te dire, là, dans une vision totalement individualiste de la société, OK, c'est aux parents à faire ça, pas à la société. Parfait. Mais si l'enfant décroche, si l'enfant n'a pas les conditions pour réussir à l'école, s'instruire, progresser dans la vie, qui va payer pour ça? C'est pas juste lui et ses parents, c'est toute la société. Donc, il y a une réflexion à faire là-dessus. Puis moi, je veux juste revenir à cette mesure de, comment on appelle ça, le calcul d'indice de défavorisation,
oui,
qui fait que certaines écoles de Montréal, maintenant, ne seront plus dans le programme où on offre des repas à 1 $. C'est une vieille image, pas moi qui l'ai inventée, sur les dangers disons, de calculer la moyenne de salaire ou des moyennes absolues, d'en faire des absolues. Nous, on est ici dans le studio, on est trois, il y a une moyenne salariale, mettons. Bill Gates arrive ici, ou Mark Zuckerberg de Facebook, soudainement, on est tous plus riches si on se fie au calcul du salaire moyen d'un groupe d'individus qui est nous. Mais là, c'est un peu ça qui se passe avec ces écoles-là. Parce que tu as un embourgeoisement, selon le dernier recensement de 2016, parce que tu as des familles plus riches qui achètent des triplex dans Hochelaga-Maisonneuve, dans le sud-ouest, qui le transforment en unifamilial, par exemple. Tu as des gens plus riches qui arrivent dans le quartier. Mais c'est sûr que le salaire moyen monte. Et si on se fie uniquement là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pauvres, qu'il n'y a plus d'enfants pauvres qui n'ont plus faim. Ça veut juste dire qu'il y a plus de riches qui font monter la moyenne et qui sortent des écoles du programme. Mais je reviens là-dessus. Pensons-y. En France, les enfants sont généralement nourris à l'école. Ils ont droit à un dîner chaud. J'ai vu les menus. On est loin des cafétérias telles qu'on les a connues dans mon enfance, par exemple, à l'école. C'est des repas de français, ça a l'air très, très bon. Est-ce qu'on n'épargnerait pas à long terme si on finançait ces repas-là pour nos enfants?
Oui, bien justement, le modèle français est intéressant. D'abord, il y a un chiffre qui m'a, moi, fait sursauter à la CSDM, Commission scolaire de Montréal. Il semble que 30 à 40 % des enfants viennent de familles qui sont sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire que là, il n'y a pas beaucoup d'argent là, pour faire des beaux lunchs bien riches. Et en France, ils basent le coût du repas accessible, parce qu'il y a un coût minime, sur le revenu des familles. C'est un modèle à adopter. Puis tantôt, tu disais combien ça coûterait. Le chiffre sur lequel je suis tombé, je ne sais pas s'il est valable, mais il disait qu'au Canada, pour fournir ces repas-là, ça coûterait 500 millions. Dans un budget, le budget du gouvernement du Canada, on ne peut pas parler d'une dépense exagérée. Mais ce qui m'a beaucoup étonné aussi, ou intéressé, c'est comment ça pourrait aussi être un outil pédagogique.
Je vais te lire, juste pour, oui, tu complèteras après, c'est quelqu'un qui m'écrit, là. Je suis dans l'équipe de direction d'une des écoles primaires les plus défavorisées. Dans l'échange, ayez à l'esprit que dans la pyramide de Maslow, si les besoins de base ne sont pas comblés, c'est une vue de l'esprit d'espérer une hausse de la réussite de nos élèves. Nous aurons beau avoir les meilleurs enseignants avec les meilleures pratiques pédagogiques, un enfant qui a faim, c'est peine perdue. L'égalité des chances passe par un ventre plein.
Ben voilà, alors merveilleux. On est d'accord avec ce commentaire-là, puis ça vient de quelqu'un qui est là sur place. En plus, ça pourrait être envisagé, puis probablement que dans les labs écoles, puis dans les nouveaux concepts d'école, on va le faire. C'est vrai que, par exemple, préparer des repas, c'est sûr qu'on peut fournir des repas, mais l'alimentation, c'est aussi un excellent lieu là, tu sais, pour apprendre des tas de notions très concrètes en mathématiques, en chimie, en raisonnement logique, faire des recettes, faire de l'alimentation, savoir d'où ça vient. Et l'autre avantage énorme, c'est que si l'école fournit des repas et le fait bien, ça veut dire que tu as une qualité qui risque de s'améliorer de l'alimentation des enfants, puis ça risque de donner de meilleures habitudes. Et ça, je trouve qu'au niveau de la santé collective, c'est formidable. Donc, moi, je suis assez en faveur de ça.
Je veux rebondir sur ce que l'administrateur scolaire qui vient de t'écrire a dit. Tu sais, c'est pas une surprise, hein? Tout ça, là, ce dont on parle ici, là, le nombre d'enfants qui ont faim, juste rappeler, là, c'est à peu près juste avant Noël ou autour de Noël qu'on parle de banque alimentaire. Après ça, on n'en parle pas tant que ça, mais la réalité des banques alimentaires, c'est que elles sont pleines. Elles sont pas pleines de gens pauvres, entre guillemets, qui sont indigents, là. Elles sont de plus en plus sollicitées par des gens qui travaillent, des gens qui sont pauvres, même en travaillant. Quand on parle aussi d'insécurité de logement, il y a de plus en plus de gens qui dépensent de plus en plus d'argent pour se loger. Qu'est-ce que ça fait? Il faut que tu coupes ailleurs. Bien, c'est sûr que ça a un effet de ruissellement jusque dans les classes. Puis, moi, je me mets à la place de ces ticus-là, là. T'as faim, t'as pas mangé un matin ou t'as mangé une tranche de pain. Puis ton lunch, c'est une pomme. Ça, ceci arrive, là. Pensez-y, là. Nous autres qui avons tous la chance là, de pouvoir nous nourrir, là. Quand vous êtes en retard pour dîner, là, je sais pas, il arrive quelque chose, puis vous allez juste manger à 1h30 cet après-midi, êtes-vous de bonne humeur à partir de midi? Moi, je sais que je suis d'une humeur massacrante, là. J'ai pas de concentration.
C'est ça, là.
Mais non. Le matin, je suis de bonne humeur, Pierre. Mais mets-toi à place.
On va manger tantôt.
Oui, c'est ça.
Mettez-vous à place d'un enfant qui est dans cette situation-là. Et des effets que ça peut avoir à long terme, moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire
là-dessus. Les parents, pense aux parents. Si on disait, chers parents, vous n'avez plus de lunch à préparer parce que l'école va nourrir très correctement votre enfant. Et mon Dieu, qu'on libérerait des parents de soucis.
Je crois entendre Jean-François Lisée lors de la dernière campagne électorale.
On y pensait, je pensais à ça ce matin, plutôt que de préparer les lunchs des enfants.
Merci. On vous retrouve demain et allez manger un petit peu. 9h-5. Le tunnel La Fontaine.